Et je vous signale que le standard interactif est à votre disposition, 01 45 24 7000 pour interroger Plantu à partir de 9h-20. Là, il est 8h et une grosse poignée de secondes. Le journal, Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Pierre et bonjour à tous. Dans l'actualité de ce dimanche, le test de la rue pour la Catalogne. Après les indépendantistes, les unionistes souhaitent faire entendre leur voix aujourd'hui dans les rues de Barcelone. Manifestation également aujourd'hui dans la plupart des grandes villes de France contre le harcèlement et les agressions sexuelles dont sont victimes les femmes. Dans l'actualité également, la reconnaissance inattendue de Jean-Luc Mélenchon à l'égard d'Emmanuel Macron. Le leader de la France insoumise reconnaît que pour le moment, tout semble réussir au chef de l'État. Plus d'admission post-bac, plus de sélection à l'entrée de l'université, juste quelques conditions. Tel semble être le contenu de la réforme qui sera présentée demain et dont Solène Lehen nous révèle les grandes lignes. Et puis du cinéma, la fin de cette édition, suivie du Journal des Sports, présenté par Laetitia Bernard.
France Inter.
Et comme vient de l'annoncer Pierre, c'est bel et bien le journal de 8h. Nous sommes en effet passés cette nuit en heure d'hiver. Alors si vous voyez s'afficher 9h sur votre radio réveil, c'est que vous avez tout simplement oublié de le retarder d'une heure hier soir en vous couchant et de fait perdu une heure de sommeil. Mais tout n'est pas perdu si vous nous écoutez.
Dans l'actualité de ce dimanche, Serge Martin, les suites de la déclaration d'indépendance de la Catalogne et sa reprise en main par Madrid.
Tandis que les pro-indépendantistes ont tenu à célébrer dans les rues de Barcelone la prise de position de leur président destitué, car Puigdemont. À Madrid, les anti-indépendantistes, autrement dit les unionistes, ont décidé eux aussi de faire entendre leur voix. Ils sont descendus hier dans les rues de la capitale espagnole. Le reportage sur fond d'ambiance à Madrid de notre correspondante Marie-Hélène Ballestero.
Que viva España! La célèbre chanson de Manolo Escobar a été reprise hier en chœur par les milliers de manifestants anti-indépendantistes comme Ana qui se sont rassemblés sur la place Colón.
Je considère que nous devons descendre dans la rue parce que c'est un coup d'État qui s'est produit. Et tout ce qu'ils ont raconté, ce sont des mensonges, rien que des mensonges. Ils ont endoctriné les enfants dans les écoles et les jeunes. Pendant de nombreuses décennies, ils n'ont fait qu'attaquer l'Espagne.
24 heures après que le Parlement catalan ait proclamé la République catalane comme État indépendant et souverain, la Fondation conservatrice d'ENAES a convoqué une nouvelle manifestation, toujours pour défendre l'unité de l'Espagne et la Constitution espagnole. Xavier est à moitié catalan. Il regrette amèrement la situation en Catalogne et la fracture sociale qui s'accentue.
Ça me touche vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a déjà une division. Il y a des familles qui ne parlent pas de certains sujets. C'est un truc, c'est pas rationnel, tout à fait émotionnel. Si tu essayes de le rationaliser avec certaines personnes, c'est impossible. Donc c'est vrai qu'il y a une rupture totale dans la Catalogne. J'espère que ça ne va pas arriver à la violence.
Les anti-indépendantistes sont remontés à bloc. Ils ne comptent pas renoncer à l'unité de l'Espagne. Coûte que coûte.
Marie-Hélène Ballestero à Madrid et puis après Madrid, les opposants à l'indépendance de la Catalogne vont continuer de faire entendre leur voix aujourd'hui dans les rues de Barcelone.
8h04, Serge Martin, la politique avec une prise de position pour le moins singulière, celle de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, le leader de la France insoumise en déplacement hier à Athènes pour soutenir le lancement d'un nouveau mouvement politique qui n'a pas hésité à reconnaître que pour le moment, tout semblait réussir à Emmanuel Macron. Oui, vous avez bien entendu, le principal opposant à la politique menée par l'actuel président de la République reconnaît que la réforme libérale entre prise par le locataire de l'Élysée, semble payer en dépit de l'opposition de la France insoumise et celle des syndicats. Je vous propose de l'écouter.
C'est un moment étrange dans le pays. C'est un moment étrange parce qu'il est en état surcritique. Normalement, l'avalanche devrait avoir lieu. Elle n'a pas lieu. Quand le président lui-même regarde le pays comme le lait sur le feu, c'est que tout le monde comprend qu'il se passe une chose hors du commun en France. Nous étions le dernier pays de toute l'Europe qui avait un mécanisme de résistance sociale tel que le dur de la réforme libérale qui est passée sur l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et même le Portugal, l'Italie, n'avait pas atteint la France. Bon, là, on est obligé de le constater. Monsieur Macron, d'ailleurs, il s'en est vanté. À son interview, il a dit « j'y suis arrivé en 5 mois ». Bon, il y est arrivé, vous connaissez notre réplique, on lui a dit « bonhomme, attends, c'est pas terminé ». Bon, mais pour l'instant, c'est lui qui a le point. Faut pas chercher à le cacher, parce que si on raconte des histoires, on n'est pas crédible. Les gens se disent, mais ils parlent de choses qui n'existent pas. Donc voilà la situation. Bon, on peut espérer reprendre le point. Et c'est clair que si la jeunesse se met en mouvement, ça y est, c'est parti. Hein. Mais c'est pas le cas.
Jean-Luc Mélenchon, micro de Sophie Delpont, un leader de la France insoumise, une fois n'est pas coutume, presque fataliste, qui ne s'est pas privé toutefois de demander à Emmanuel Macron de rendre l'argent pris par l'Europe sur le dos des Grecs. Fin de citation. Et puis le chef de l'État qui a mis fin hier à sa visite dans une Guyane toujours sous tension. Et Emmanuel Macron qui a plaidé pour une nouvelle page des relations entre l'État et les territoires ultramarins avec des aménagements constitutionnels à la clé. Le président de la République qui a promis que des décisions fortes, pour reprendre son expression, seraient prises l'été prochain à l'issue des assises d'outre-mer.
Serge, c'est demain lundi qu'Édouard Philippe et sa ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, doivent dévoiler la réforme de l'entrée à l'université.
Oui, réforme qui devrait notamment consister à remplacer la plateforme APB, à l'origine cette année encore de nombreux dysfonctionnements. Et alors qu'il était de plus en plus question d'une nouvelle forme de sélection, selon les informations recueillies hier soir par Solène Lehen de France Info, il ne devrait finalement pas y avoir de sélection. Les lycéens pourront choisir la filière qu'ils souhaitent, tout sous certaines conditions quand même. Solène Lehen.
Pas de sélection, pas de barrière, le gouvernement a entendu les syndicats étudiants totalement opposés. Pour eux, c'est l'étudiant qui doit avoir le dernier mot sur son orientation. D'abord, il va y avoir un très gros travail sur justement l'orientation, pour que les bacheliers ne débarquent pas, comme souvent aujourd'hui, dans des filières qui ne leur conviennent pas ou alors dans lesquelles ils n'ont pas le niveau. Cela devrait permettre de désengorger un peu les filières les plus demandées. Ensuite, les lycéens n'auront plus à classer leurs vœux sur la future plateforme. C'était trop compliqué, avec des calculs incertains. Ils obtiendront une réponse de chaque université. Enfin, pour lutter contre l'important taux d'échec en première année, dans toutes les filières, l'université pourra imposer une remise à niveau aux étudiants, notamment sur la base des bulletins scolaires et de l'avis du conseil de classe de terminale. Une remise à niveau obligatoire et personnalisée, elle pourrait durer un an. On imagine que là aussi, cela pourrait désengorger les filières les plus en tension, car à la perspective d'y passer une année entière, découragés, les moins motivés pourraient décider d'aller voir ailleurs.
Un dossier sur lequel nous ne manquerons pas de revenir demain sur France Inter.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'AVC, troisième cause de mortalité derrière le cancer et l'infarctus.
Dû à l'obstruction d'une artère du cerveau par un caillot dans 80% des cas ou bien provoqué par la rupture pure et simple d'une artère, l'AVC ne touche pas que les personnes âgées. 12% des victimes ont en effet entre 20 et 50 ans. Alors quels sont les signes annonciateurs d'un AVC, ceux qui doivent inciter à appeler immédiatement le 15? Réponse avec Daniel Messager.
C'est la survenue brutale d'un de ces symptômes qui doit alerter: troubles de l'équilibre, perte de force musculaire dans un bras ou une jambe, troubles de la parole ou visuel, ne pas se dire que ça passera et appeler tout de suite le 15, car le traitement doit être mis en place le plus rapidement possible, au plus tard 4h30 après les premiers symptômes. Le professeur Pierre Amarinco, neurologue à l'hôpital Bichat.
4h30, c'est pour le traitement thrombolytique. C'est un médicament que l'on injecte par voie veineuse qui agit un peu comme le desktop pour déboucher un évier. Bah là, c'est la même chose, c'est la tuyauterie, hein, on débouche un caillot qui obstrue une artère. Au-delà de 4h30, il peut devenir dangereux et créer une hémorragie. Ça serait l'inverse de ce que l'on cherche. Au-delà, on a un autre traitement qui s'appelle la thrombectomie. On va, par l'intérieur des artères, capturer le caillot et le ressortir. Ça, on peut le faire jusqu'à 6 heures après le début des symptômes.
Il faut aussi être en alerte si les symptômes surviennent de façon plus modérée et disparaissent au bout de quelques minutes. Ce peut être un accident vasculaire transitoire, les signaux de fumée d'un volcan qui risque d'exploser plus tard. Une consultation s'impose. Prévenir un AVC, comme toute maladie vasculaire, passe par un arrêt du tabac, une alimentation saine et de l'exercice physique.
Dossier à retrouver sur franceinter.fr. Mobilisation aujourd'hui un peu partout en France pour protester contre les agressions sexuelles et le harcèlement dont sont victimes les femmes. Des rassemblements sont prévus cet après-midi dans la plupart des grandes villes. 13h à Lyon, 14h à Bordeaux, 15h à Paris et à Marseille. Du cinéma pour refermer ce journal avec un film à l'affiche depuis mercredi, un film hongrois de la réalisatrice Ildikó Egyedi, Corps et âme, film qui a obtenu l'Ours d'or à la dernière Berlinale. C'est la surprenante histoire d'amour entre le directeur financier d'un abattoir et la responsable du contrôle de qualité, deux personnages qui ont un rêve commun, un film onirique et touchant qui visiblement ne vous a pas laissé insensible, Jacqueline Petroz.
Dans notre société très codifiée, André et Maria sont des handicapés. Lui, directeur de cet abattoir moderne, est un homme respecté, taciturne, qui a perdu l'usage de son bras gauche. Elle est nouvellement arrivée, elle contrôle la qualité de la viande après abattage. Son handicap, le contact humain et physique. Arrive un drôle d'incident, quelqu'un a mélangé à la nourriture de la cantine un puissant aphrodisiaque. On ne sait pas tout ce qui s'est passé, mais la police enquête et délègue une psychologue. Au cours des entretiens, Hendré et Maria racontent le même rêve d'un cerf et d'une biche s'apprivoisant dans la forêt l'hiver. Pour comprendre, alors ils se rapprochent, mais l'amour est bien difficile quand on a vécu si longtemps seul. Hendré et Maria vont devoir se dépasser pour se rejoindre. Drôle de scénario qui nous tient par le bout du cœur, tant les comédiens sont touchants. Malgré les scènes dans l'abattoir où il faut avoir le cœur bien accroché, malgré les petites trahisons des collègues, malgré le choc des images entre la mort des vaches et la beauté du cerf et de la biche, malgré toutes les questions liées à notre mode de vie et à sa froideur, il ressort de ce film une sérénité et une tendresse surprenantes et apaisantes.
Corps et âme, actuellement au cinéma sur une chanson de Laura Marling. Merci Jacqueline Pétros, c'est la fin de ce journal et c'est à vous Pierre Veille.
C'était le journal de Serge Martin et tout de suite les sports.